Bonsoir à tous et à toutes, vous êtes bien dans Sortez, votre quotidienne d'actualité socio-culturelle. Ce soir dans Sortez, pendant 5 émissions consécutives, on va se pencher sur ces élections municipales 2014. Donc chaque soir à 18h10, nous aurons le plaisir de recevoir en direct un candidat, de s'intéresser à son programme et de mesurer ainsi tous les enjeux de ces élections municipales. Ce soir dans Sortez, nous recevons Anne Brunet qui est tête de liste Lutte Ouvrière.
Bonjour.
Bonjour.
Bonjour Anne Brunet. Et donc, je vous propose de commencer par vous présenter.
Tout à fait. Alors d'abord, je suis en tête de la liste qui s'intitule « Lutte ouvrière, faire entendre le camp des travailleurs ». Personnellement, je suis enseignante et j'ai 46 ans.
D'accord, cela fait longtemps que vous vous situez en politique ?
Oui, tout à fait. Je milite à Lutte ouvrière depuis plus de 20 ans.
Depuis plus de 20 ans, d'accord. Donc
C'est la première fois que vous êtes tête de liste.
C'est la première fois que je suis tête de liste, effectivement, pour les municipales. J'étais la candidate de Lutte ouvrière aux législatives précédentes.
Vous avez déjà été sur une liste d'élections auparavant ?
Oui, j'étais seconde de la liste aux précédentes élections municipales.
D'accord. Donc, pour l'instant, si on passe à votre campagne, donc vous avez été assez active pour votre campagne. On m'a rapporté de nombreux tractages. Donc, votre ressenti sur cette campagne et son déroulement ?
Alors la campagne n'est pas terminée, hein, mais c'est vrai que nous avons commencé depuis un bout de temps à aller au contact de la population, des travailleurs, dans les rues, à la porte des entreprises, dans bien des endroits proches des quartiers populaires ou plus en centre-ville, où on rencontre des travailleurs, des jeunes, des retraités, à qui on a des choses à dire, à qui on a un programme politique à proposer.
Qu'est-ce qu'on vous dit ? Parce que c'est un échange aussi, quand vous rencontrez des gens, les gens aussi vous parlent. Qu'est-ce qu'ils vous disent actuellement sur Tours ?
Je crois que beaucoup de travailleurs se préoccupent de problèmes qui les touchent aujourd'hui de plein fouet, c'est-à-dire les effets de la crise qu'on leur fait payer, hein, que le gouvernement, le patronat leur fait payer. Il y a des licenciements qui touchent la ville de Tours depuis bien longtemps comme dans d'autres villes. Le taux de chômage est important à Tours. On rencontre beaucoup de gens qui craignent le chômage ou qui sont dans le chômage ou qui parfois font des petits boulots, n'ont pas assez de travail pour vivre. Et tout ça, évidemment, nous, ça nous intéresse, ça nous parle, parce que c'est face à tous ces problèmes-là qu'on a des réponses. Et on pense qu'il faut que les travailleurs se bagarrent pour ne pas accepter cette situation, d'autant plus que l'argent existe largement dans la société actuelle, dans les poches des patrons, quand on voit les profits que dégagent les entreprises pour répondre à ces problèmes-là.
Et justement, vous venez de nous faire en ébauche. En réalisant cette campagne et en participant à cette élection, à qui voulez-vous particulièrement venir en aide ?
Nous, on ne vient pas en aide. La formulation ne correspond pas tout à fait.
Vous pouvez libre à vous de
reformuler. Nous ne sommes ni médecins ni avocats. Nous sommes des militants, des gens qui ont justement un programme politique à proposer aux travailleurs pour leur lutte future. Et nous pensons que les institutions locales, comme des institutions à un autre échelon, peuvent permettre aux travailleurs de se faire entendre, que les élections, c'est un moment pour les travailleurs pour se faire entendre, pour se regrouper sur un programme qui est le leur, par rapport à la défense de leurs propres intérêts, pour faire entendre leurs propres exigences, qui ne sont pas forcément les exigences justement de n'importe qui dans la population, et en particulier évidemment pas du tout des classes riches, des gens qui à Tours comme ailleurs payent l'impôt sur la fortune, etc. Les préoccupations sont pas les mêmes, donc nous on s'adresse aux travailleurs, et parce qu'on a un programme à leur proposer dont on espère que les luttes de demain permettront aux travailleurs de se regrouper sur des objectifs tels que ceux qu'on défend, c'est-à-dire tels que l'interdiction des licenciements, etc. Enfin, je suppose qu'on va en reparler.
Tours est une ville qui est quand même une ville moyenne, une ville, une très grande ville, qui est une ville assez riche aussi. On n'y habite pas. Enfin, il faut quand même un certain pouvoir d'achat pour y vivre. Combien de travailleurs, tels que vous nous décrivez, il y a à Tours qui sont directement concernés en fait par ce que vous décrivez?
Moi, je pense que les travailleurs, ils représentent à Tours, comme dans toutes les grandes villes de ce pays, une grande, grande majorité de la population.
Vous avez des chiffres ?
Oh, est-ce que j'ai des chiffres ? La population de la ville de Tours, je crois que c'est proche de 134 000 habitants. Et je pense qu'une grosse majorité, c'est bien sûr plus de 100 000 habitants qui sont concernés par ce qu'on dit. Tout simplement, je vais vous dire... bon, je suis pas là pour, spécialement pour parler de statistiques, parce que ça suffit pas les statistiques et c'est pas forcément aussi parlant qu'on le pense. Mais il y a 1 millier de personnes qui gagnent plus de 100 000 euros dans cette ville, qui déclarent plus de 100 000 euros annuels. Ça, on ne sait pas où ça s'arrête, vers le haut. Mais évidemment que ce qu'on dit, ça ne touche sûrement pas ces gens-là.
D'accord. Donc on sent une teinte de votre lutte. De qui vient de votre parti. Donc l'objectif premier de cette élection, justement, est-il de prôner les idées de votre parti au niveau local ou de réellement militer pour la spécificité de Tours?
Écoutez, moi je crois que ça c'est du bluff. La spécificité de Tours, elle n'existe pas. Tours n'est pas une ville sous bulle. Les problèmes qui existent dans le pays, on les retrouve à Tours comme on les retrouve ailleurs. Et surtout les problèmes principaux des gens, hein, de la majorité de la population, c'est comment gagner sa vie aujourd'hui. Comment est-ce qu'on gagne sa vie sans trimer, sans se faire exploiter, et comment on peut gagner sa vie correctement, hein, parce qu'aujourd'hui avec le SMIC, on n'a pas assez pour vivre. Le SMIC, il a pas suivi l'augmentation du coût de la vie, et en réalité, il y a bien des choses qui l'ont grignoté, et ça touche énormément de monde. Non pas parce que tout le monde est au SMIC, mais parce qu'il y a bien des salaires qui sont autour du SMIC qui sont insuffisants. Et en plus, le chômage pèse dans beaucoup de familles. Quand il y a un fils, une fille, un époux, une épouse sans travail, ça pèse dans le revenu et dans les moyens, le niveau de vie d'une famille. Et c'est ça qui touche bien plus la population de Tours que je ne sais quelle spécificité liée à la Loire, qui est certes un beau fleuve, ou aux spécialités viticoles de la ville.
Je crois que la question de Maxime était peut-être un petit peu différente. Dans la mesure où je vais essayer de reformuler ce qu'il disait, c'était quels sont les... Finalement, on a préparé cet entretien à partir d'un tract et non pas à partir d'un programme. Et du coup, on s'interrogeait plutôt sur les mesures concrètes qui se passaient à Tours, que vous souhaiteriez mettre en place.
Oui. Alors les mesures concrètes, la première des mesures concrètes, c'est une mesure qui est vitale pour que justement des dizaines de milliers de travailleurs de cette ville ne plongent pas vers la pauvreté. Eh bien, ce serait d'abord, en premier lieu, l'interdiction des licenciements pour tous les travailleurs, des licenciements collectifs, des licenciements qui sont dits économiques et autres. Pourquoi ? Parce que les moyens existent pour permettre à tout le monde d'avoir un emploi qui lui permette de vivre décemment et de vivre autrement qu'avec des aides.
D'accord, donc pour conclure, vous voulez appliquer des mesures à Tours qui pourraient s'appliquer au niveau national.
Tout à fait.
Aucun rapport avec la spécificité, donc la réponse à ma question était plus de prôner les idéologies nationales.
Si vous voulez, on peut dire ça comme ça, mais je dirais même plus, c'est que la réponse aux problèmes qu'ont bien des Tourangeaux, elle ne pourra pas être locale. Je crois que les gens qui nous disent, qui prônent, qui envisagent d'être maire et qui font croire aux travailleurs de cette ville que s'ils étaient maires, ça pourrait changer leur vie. Bien sûr, il n'en est rien, parce qu'il suffira pas qu'il y ait telle ou telle petite chose de faite pour résoudre ce qui est l'essentiel des problèmes de la population de cette ville, des travailleurs de cette ville aujourd'hui, qui sont des problèmes d'emploi et de salaire. Et ça ne pourra se résoudre qu'à l'échelle nationale, et moi je dirais même par des luttes à l'échelle nationale, par quelque chose qui changera le rapport de force entre les travailleurs et le patronat à l'échelle nationale.
Donc justement pour revenir sur ce que voilà donc justement pour revenir sur ce que vous venez de dire, donc pour donc vous parlez de en gros globalement d'appliquer un à l'échelle mais locale un programme qui peut être national au final, mais par exemple les différents investissements qui pourraient être faits tels que la deuxième ligne de tramway ou pour l'éducation ou les nouveaux quartiers comme à Beaumont-Chauveau, est-ce que vous pouvez arriver à le cadré entre guillemets dans le programme qui paye une base nationale, sachant que pour un Tourangeau, il sera enfin pour n'importe quel habitant de mais d'une ville, il sera forcément souvent plus intéressé par un programme qui peut lui parler, par exemple en parlant de tram, en parlant de nouveaux quartiers, des choses comme ça, qu'un programme à l'échelle nationale qui il pourra peut-être se dire finalement, mais est-ce que Tours peut se reconnaître dedans au final?
Alors, pour bien me faire comprendre, je vous dirais que les préoccupations locales liées au transport, à l'éducation, comme vous l'exprimez, ou sur d'autres sujets, elles dépendent quand même de questions de budget. Alors, le budget aujourd'hui, le budget des écoles, par exemple, de plus en plus, les écoles, les crèches, tout le monde nous vend, tous les candidats disent « moi, je construirai plus de crèches, ça ira mieux ». Dans les écoles, il y aura plus de transports, etc. Évidemment, c'est nous aussi. On souhaite qu'il y ait plus d'écoles avec des classes moins chargées, de meilleurs transports publics, qui soient des bus ou des trams. Je crois qu'il ne faut pas opposer l'un à l'autre et il ne faudrait pas que l'un nuise à l'autre également. Que ces moyens de transport soient bon marché, ça me semble très important. Mais tout ça, il ne suffit pas de le souhaiter. Dans quel contexte on est pour résoudre ces problèmes-là? Est-ce que dans un contexte où l'État, par exemple, au niveau national, prive de plus en plus les collectivités locales des moyens qu'ils ont, c'est 10 milliards, je crois que le gouvernement Hollande a annoncé d'économie sur les collectivités locales, tout ça, ça va peser sur les moyens qu'a une ville pour résoudre ces problèmes-là et pour compenser un petit peu les problèmes de la population la plus modeste dans cette ville. Eh bien, moi, je crois que là encore, ils rasent gratis ceux qui nous font croire qu'ils vont tout améliorer comme ça et sans que, avec leurs amis qui sont au gouvernement d'ailleurs et qui prennent des mesures de restriction. C'est ça que je voudrais aussi dénoncer, parce que les mêmes qui nous font des ici, à Tours, ils ont leurs amis au gouvernement, ou parfois ils les avaient quand il s'agit de la droite, au gouvernement, et les uns comme les autres, que ce soit le gouvernement Hollande aujourd'hui, que ce soit la droite de Sarkozy auparavant, hein, ils ont pris des mesures qui s'attaquent aux services publics, et qui aujourd'hui, par exemple, hein, tendent à diminuer les moyens des villes et des collectivités locales et territoriales. Alors, à un moment donné, les villes ne pourront pas résoudre tous les problèmes, et en plus, c'est du cas par cas. C'est à niveau national que les moyens existeraient et qu'on pourrait faire une répartition cohérente. Et
si je peux, c'est un portrait qui est assez sombre, celui que vous décrivez, mais finalement, quand vous avez dressé ce portrait, quels sont les moyens d'action que vous, en tant que maire, si vous êtes élu, vous mettriez en place justement pour renverser la vapeur?
Bien, ces élections, déjà, elles permettent aux travailleurs de se compter et d'être les plus nombreux possibles à exprimer un programme. Si nous avons des élus conseillers municipaux, puisque d'abord on élit des conseillers municipaux, je vous rappelle qu'on n'élit pas le maire au suffrage universel direct, et si on a des élus conseillers municipaux, eh bien, on fera entendre la voix des travailleurs dans le conseil municipal, comme on pourrait le faire entendre dans d'autres instances, c'est-à-dire qu'on défendra cette politique, et je pense qu'une mairie, elle peut avoir des solidarités avec les uns plutôt qu'avec les autres. C'est-à-dire que moi, je ne suis pas pour qu'on ait un maire qui soit en solidarité avec une politique qui est celle menée par le gouvernement actuellement, qui n'est constituée majoritairement que d'attaques contre le monde du travail. C'est quoi un maire qui prétend faire tout bien pour la population de cette ville, c'est-à-dire pour une majorité de gens qui sont des travailleurs, et puis qui est solidaire d'une politique nationale qui s'en prend largement au monde du travail, comme s'en prenait Sarkozy, par exemple, sur les retraites, sur
ça signifie en résumé que vous militez cette campagne plus pour montrer le poids qu'a l'action de lutte ouvrière dans la municipalité, plus que pour réellement être élu et appliquer un programme.
Parce que, vous, effectivement, vous voulez contester des décisions nationales. Mais si vous êtes élu face à la dotation qui viendra tous les ans pour gérer votre ville, mais qu'est-ce que vous pouvez faire pour mettre en œuvre cette politique alternative?
Nous, si on était élu, on appuierait tout ce qui irait dans le bon sens, hein, et on dénoncerait tout le reste.
Mais c'est-à-dire
tout ce qui permettra à la population locale de bénéficier de choses qui nous semble positive. Mais si vous voulez, nous, notre campagne aujourd'hui, elle est avant tout pour permettre aux travailleurs de s'exprimer et de voter pour un programme qui doit être le leur pour demain. Et de connaître ce programme-là et de ne pas se tromper d'ennemi. Je vous rappelle qu'on est quand même dans une situation de crise politique, économique, surtout une crise économique qui pèse sur les classes populaires depuis des années. Depuis 30 ans, la crise existe. Depuis 2008, elle s'est largement aggravée. Et ça, aujourd'hui, on voudrait nous faire croire que la politique, ça se résumerait à savoir comment on gère une ville. Mais la politique, c'est autre chose que ça. La politique, c'est quelque chose de plus sérieux que de savoir si tel ou tel homme politique local va pouvoir grignoter telle ou telle petite chose. Parce que les choses les plus importantes de la vie politique d'aujourd'hui, elles ne se décident pas localement. Elles se décident nationalement. Elles se décident aussi parfois localement. Quand on a affaire, par exemple, je vais vous donner un exemple concret. Vous vouliez des exemples concrets. ST Microélectronique, c'est une grosse entreprise multinationale qui est implantée à Tours. Bon, cette grosse entreprise, hein, elle bénéficie d'aide de la part de la ville de Tours, qui lui a octroyé une rue, par exemple, qui a été privatisée en quelque sorte. Il y a des aides financières qui vont à la recherche, puisqu'il y a même une partie de la recherche des étudiants dans les spécialités qui sont celles de l'électronique de pointe, etc., qui sont des recherches publiques et des moyens publics octroyés à une grosse multinationale comme ça. La mairie, comme d'autres organismes et institutions.
L'université en tire quand même un certain bénéfice également de sa part.
L'innovation,
sur des brevets qui tombent sur l'école doctorale et qui permettent aussi d'alimenter.
C'est un point de vue, mais depuis bien longtemps, il y a une orientation qui consiste à dire il faut que les entreprises privées rentrent dans l'université, etc. Tout ça, ça veut dire les intérêts privés patronaux au service qui viennent chercher aussi la matière grise, qui viennent chercher les moyens financiers. Hein. Moi, ce que je conteste, c'est les aides publiques qui devraient aller justement aux services publics et non pas aux entreprises privées, en plus à ces énormes multinationales. Je vous rappelle qu'il y a eu des aides données à cette entreprise ST, qui fut Thomson dans le passé, au moment même où cette multinationale fermait une usine et licenciait à Rennes, par exemple.
Anne Brunet, tête de liste Lutte ouvrière, je vous propose une courte pause musicale. On se retrouve tout de suite dans Sortez pour ces élections municipales. Nous écoutons Last Island Tibet. Et c'était Tibet de Last Island. Comme promis, on se retrouve dans Sortez, votre quotidienne d'actualité socio-culturelle, pour ces spéciales élections municipales 2014. Et pour cette première émission, nous recevons Anne Brunet, tête de liste Lutte ouvrière. Je laisse poursuivre l'entretien.
Donc Anne Brunet, reprenons sur un autre sujet. Donc en ce qui concerne votre liste de votre campagne électorale, quelle personnalité compose votre liste ?
Alors on a donc 55 personnes qui sont en partie des militants de Lutte ouvrière, des militants communistes. Hein, nous sommes une organisation communiste et il y a aussi tout un tas de gens qui sympathisent avec nos idées et qui partagent avant tout le programme qu'on a choisi de défendre dans ces élections, c'est-à-dire un programme qui permettra lors de ces élections aux travailleurs d'exprimer leur désaveu de la politique gouvernementale relayée localement par M. Germain, et dont M. Germain est solidaire, de même que son équipe, dans son ensemble, et donc d'être une opposition ouvrière sur un terrain très clair à ceux qui gouvernent aujourd'hui, localement comme nationalement.
D'accord.
Ça, d'une part, c'est un aspect des choses, mais il y a un deuxième point qui me semble très important, c'est de permettre aux travailleurs conscients de qui sont leurs adversaires dans cette société, hein, de le dire sans se tromper d'ennemi, sans croire que d'autres travailleurs, parce qu'ils sont différents, etc., seraient leurs adversaires ou leurs ennemis, comme certains partis qui s'opposent également au gouvernement voudraient faire croire. Et nous, on propose aux travailleurs de s'opposer au gouvernement sur la base de leurs exigences propres en tant que monde du travail.
Dans les partis qui s'opposent au gouvernement, vous entendez le Front National ?
Entre autres. La droite, également, en général.
Est-ce que justement, vous pensez que le Front National récolte réellement un vote ouvrier ? Parce que finalement, d'après des sondages qui sont sortis, le vote ouvrier, en fait, ne se déplace pas tellement. Il quitte la gauche, mais pas forcément pour aller au Front National.
Vous savez, il y a toujours eu des travailleurs dans ce pays qui votaient à droite. Hein, au RPR à une époque, etc. Des travailleurs dont peut-être une partie sont allés de la droite à l'extrême droite. Bon, ça a toujours été, ça a existé. On est dans un pays où la droite est forte. Faut le reconnaître. Et ce sont des idées qui existent aussi dans la classe ouvrière. Mais les plus conscients des travailleurs et des intérêts de leur propre classe et de leurs propres intérêts, évidemment, ils vont pas voter dans ce camp-là. Ça, c'est sûr. Mais ils vont pas non plus s'abstenir. hein, s'ils pensent que ils doivent pas en tout cas s'abstenir, même s'ils pensent que le monde politique qui nous gouverne est pourri, et c'est le cas, je pense, et je partage cette idée-là, mais je crois qu'on peut pour autant se servir des élections, de ce droit que nous avons, pour défendre une politique qui nous est propre et qui correspond aux intérêts de notre classe sociale, du camp dans lequel on se trouve. C'est pour ça que notre liste s'intitule « Le camp des travailleurs ». Faites faire entendre le camp des travailleurs. Parce qu'on pense que dans cette société qui est divisée en classe sociale, tout le monde n'a pas les mêmes intérêts.
D'accord. Mais le discours que vous venez d'employer, c'est un discours qui est anti-élite, qui est assez fort, qui est d'ailleurs partagé de façon extrêmement surprenante par le Front National, et qui est un discours qui personnellement m'a interrogé, parce que vous l'avez dit tout à l'heure en tout début d'interview, vous êtes professeur, donc vous appartenez mine de rien à cette classe qui possède ce capital culturel, qui est le capital de Bourdieu. Donc dans votre bouche, le fait d'employer cette rhétorique anti-élite, elle me surprend énormément.
Votre question, elle est intéressante parce que je crois que vous faites une confusion. On n'a pas un discours anti-élite. Qu'est-ce que vous mettez dans ce mot-là ? Nous, on conteste le capitalisme et le fait que l'économie aujourd'hui soit tenue par une petite minorité de grands...
Cette minorité, c'est bien l'élite.
Une élite
autoproclamée, peut-être.
Financière. Je ne parle pas d'une élite intellectuelle, une élite économique financière. C'est vous qui utilisez le terme d'élite, c'est pas moi. Nous, ce qu'on dénonce, c'est que l'économie aujourd'hui, le monde dans lequel on est, il est façonné par une petite minorité de quelques milliers ou dizaines de milliers d'individus qui tiennent les rênes des grandes entreprises, de la finance, des banques, et c'est eux qui dictent leurs lois au gouvernement et à tous ceux qui ont un petit peu de pouvoir localement comme représentants, etc., dans les instances politiques. On conteste ça, mais contrairement à ce que vous pensez, et nous on pense qu'il faut que les travailleurs le contestent le pouvoir des riches, de la classe riche, pas des riches parce que certains ont deux fois plus de salaire que d'autres, mais de la classe riche, de la classe des exploiteurs. C'est ça qu'on dénonce. Et c'est ça qu'on veut changer. Et on pense qu'il faut que les travailleurs changent le rapport de force, hein, qui est aujourd'hui, du fait du chômage qui pèse tant depuis des années, qui leur est défavorable face à cette classe possédante. C'est la classe possédante qui pose problème aujourd'hui dans la société, parce qu'elle contrôle tout. Elle veut des hommes politiques qui soient des serviteurs de leurs intérêts très particuliers, qui ne sont pas les intérêts de toute la société, contrairement à ce qu'on voudrait nous faire croire.
D'accord, donc on a abordé le sujet du Front National, le Front National qui a un domaine de prédilection qui est l'insécurité. Concernant l'insécurité, votre tract parle de prendre la source au point général. Qu'est-ce que vous entendez par là ?
Alors, bah oui, parce que moi je pense que les problèmes liés à la délinquance, aux incivilités, etc., ça ne se résoudra pas en mettant plus de caméras ou plus de policiers. Prendre le problème à la source, ça veut dire résoudre le problème qui est lié à une société où les inégalités sociales s'accroissent, où la misère s'accroît et où il y a un délitement social qui pèse. Et ces problèmes dits sécuritaires, etc., qui est-ce qui les subit le plus d'ailleurs ? Ce sont les classes populaires. Dans les quartiers populaires, c'est là où c'est le plus difficile de vivre tout ça. Et vous croyez, ou la droite voudrait faire croire, ou certains voudraient nous faire croire, qu'il suffirait de mettre des caméras et de mettre des policiers au coin de la rue pour régler ces problèmes-là. Mais pourquoi est-ce que les trafics se développent ? Est-ce que les jeunes, ils ont tous la perspective de pouvoir s'intégrer dans cette société avec une place qui leur permettra de vivre correctement, convenablement, etc. ? Pas du tout. La société, elle est très dure. Pour beaucoup de gens, elle exerce une violence sur eux, hein. Et donc nous, on voudrait d'abord, on pense que pour résoudre ces problèmes-là, c'est pas en faisant devenir la société plus policière qu'on résoudra ces problèmes-là. Ce qu'il faut, c'est s'en prendre à ceux qui licencient, qui mettent des gens à la rue.
Encore une fois, on se trompe de cible en prenant ces acteurs dans les quartiers.
Donc vous êtes pour la répression, pour la prévention avant la répression, justement. Mais pensez-vous que la répression n'est-elle pas nécessaire au maintien de l'ordre public ?
On est dans une société où il y a tellement de choses pourries, hein, que dans le cadre de ce système, effectivement, on ne peut pas dire que ce système peut se passer de policiers, ça c'est sûr. Mais justement, il faut, et nous sommes là pour ça, nous militons pour ça, hein, aller vers une société complètement différente, hein, parce que c'est une société complètement violente qui génère tant d'inégalités sociales. Et je crois que... comment dire, bah justement, il faut contester cette société qui oblige parfois certains à avoir besoin d'un policier pour se protéger. Hein, pour se protéger de qui? Les gens ont peur des pauvres, parce que les pauvres, ils risquent de piquer le sac de celle qui a son portefeuille dedans, etc. Faut arrêter d'avoir peur des pauvres. Les pauvres, il faut qu'ils se battent eux-mêmes déjà pour changer de leur propre sort collectivement. Je crois que c'est ça le problème aussi. On est dans une société individualiste où on ne voit plus les solutions collectives. Et je crois que les pauvres, mais avant tout les travailleurs dans leur ensemble, doivent avoir la perspective de changer leur sort ensemble et donc de changer cette société et de ne plus être ceux qui subissent et qui doivent se débrouiller par tous les moyens, le système D, etc. pour essayer de survivre.
Juste rapidement, parce qu'on aimerait poser une dernière question avant de vous quitter. Tout à l'heure, vous avez évoqué la jeunesse et le fait de ne pas avoir beaucoup d'avenir quand on vit dans les quartiers. Il se trouve que Radio Campus, c'est une radio normalement écoutée par les jeunes, hein, c'est ce qu'on espère. Comment est-ce que vous comptez appréhender la question de la jeunesse au sein de votre programme?
Ben, la jeunesse, elle est l'avenir de cette société.
Oui, j'espère que tout le monde le dit.
Oui, tout à fait, tout le monde le dit. Mais j'espère qu'elle va nous entendre dans ce sens, parce que la jeunesse, eh ben, il faut qu'elle se batte pour un idéal différent de s'adapter à cette société pourrie, justement. Il faut essayer de vouloir la changer, cette société. Il faut essayer de regarder vers un avenir autre que de subir et de s'adapter au mieux. On essaie de survivre dans cette société. Beaucoup de gens essaient de survivre simplement. Bah non, il y a mieux à faire que ça. On est dans une société riche où il y a beaucoup de moyens et il faut que tous les moyens de la société soient mis pour que tout le monde puisse en bénéficier et que les richesses ne soient pas toujours concentrées entre les mains de quelques-uns. Mais pour ça, il faut que les jeunes y prennent conscience qu'il y aura besoin de lutte collective, de lutte massive, d'une lutte d'ensemble. Et il faut s'exprimer, il faut en discuter, il faut regarder vers les idées communistes. C'est les seules idées qui sont porteuses d'un autre avenir pour la société.
Donc bah du coup dernière question rapidement. Donc pour vous, quelle importance occupent les questions relatives à la jeunesse? Donc on peut penser donc aux jeunes qui deviennent autonomes de 16 à 30 ans. Victor est une ville étudiante. Parce qu'au final on communique beaucoup, mais au final qu'est-ce que vous proposez pour les jeunes à Tours, mais la ville de Tours en elle-même? Pour les jeunes.
Eh bien, on leur propose pour la ville de Tours. Eh bien, on propose aux jeunes de venir nous voir, de discuter, parce que ce qui compte, c'est comment on va faire pour changer la société.
Oui, mais ce qu'ils veulent, c'est des propositions concrètes, en fait.
Mais écoutez, la politique, ça peut pas se résumer en quelques points. S'il y a des gens qui vont vous promettre un catalogue de choses qu'ils ne réaliseront jamais, la société restera toujours la même. Alors moi, je vais pas vous mentir. Je vais pas vous dire, voilà, on va faire ci, ça. Et ça, etc. Parce que tous ces gens qui vous disent ça sont des menteurs. Ils ne font rien de plus que les autres. Ça fait 30 ans, 40 ans qu'on est dans une crise où les gouvernements à gauche et à droite se sont succédés et où les choses ont continué à se dégrader. Pourtant, ils prétendent avoir la meilleure solution que leurs voisins. Non. Ce qu'il faut, c'est en finir avec le capitalisme. Et moi, ce que je propose aux jeunes, c'est de venir discuter de ça. Et je vous propose, il y a un rendez-vous pour ça, si vous voulez, entre autres. Eh bien, c'est notre réunion publique de mercredi prochain à 20h30. Donc le 19 mars à 20h30 au centre de vie du Sanitas. Ceux qui ont envie de discuter de ce que pourrait être l'avenir de la société et leur avenir dans cette société, bah justement, le problème, c'est pas de faire carrière individuellement. Hein. Évidemment qu'il y a des tas de jeunes intelligents, capables, etc., qui peuvent faire carrière et se construire un avenir personnellement assez favorable dans cette société. Mais j'espère qu'ils n'ont pas envie de vivre, ces jeunes, dans une société qui est pourrie, où il y a la misère autour d'eux, et qu'ils auront envie de faire autre chose qu'une carrière pour eux-mêmes, hein, mais de regarder ce qui se passe autour d'eux aussi, et d'une façon un peu plus généreuse que leur propre nombril, quoi.
On vous remercie beaucoup.
D'accord, merci beaucoup
d'être venu inaugurer cette semaine que nous consacrons aux élections municipales de Tours.
Eh bien, merci de m'avoir invité aussi.
Anne Brunet, merci beaucoup. Vous êtes tête de liste Lutte Ouvrière. On vous souhaite une très belle fin de campagne avant ce 23 mars pour le premier tour.